JMFM.
JMFM, voyage des lycéens vers de nouvelles vibrations musicales.
JMFM.
Pour découvrir et redécouvrir des musiques multigénérationnelles. JMFM.
On vous embarque pour léviter sur nos ondes locales.
Retrouvez-nous
mercredi
de midi et demi jusqu'à 14h au CDI.
JMFM.
Rejoignez-nous.
Bonjour à tous, c'est JMFM, la web radio musicale du lycée Jean Moulin de Pézenas, en partenariat avec RPH. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission spéciale guitare, la guitare folle. Et comme sommaire, on va vous proposer d'abord, avec Léa et Vassili, de parler de la guitare dans tous ses états. Puis, toujours avec Léa et Vassili, nous allons réfléchir sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de femme guitariste. Avant que Théo et Quentin nous parlent d'une guitare en format de jeu vidéo. Alors, Léa et Vassili, bonjour, on vous laisse la parole.
Bonjour.
Léa, il me semblait que tu avais quelque chose à nous dire à ce propos, tes guitaristes préférés, ceux qui te touchent le plus, dis-nous tout.
Oui, donc je voulais vous parler des guitaristes qui ont façonné mon son et qui ont des influences un peu identiques. C'est Mathieu Chédid et John Frusciante.
Donc M.
Exactement, M. Et ces deux guitaristes, c'est ceux que j'ai écoutés le plus quand j'ai commencé la guitare et que j'écoute encore aujourd'hui. Ils ont une quête un petit peu semblable, c'est celle de la note ultime en fait. C'est le fait de vouloir jouer simple, mais de jouer les notes qui seront nécessaires pour retranscrire les émotions, celles qui vont vraiment pile coller avec les émotions qu'ils veulent retranscrire. Et donc ils ont cette façon de jouer qui se ressemble un peu, je trouve, dans M et dans John. Et ils ont une influence identique, Jimi Hendrix. Bien évidemment, ça se ressent vachement dans leur jeu, puis même dans leur son, avec la wah, la distorsion, fuzz un peu, et puis même la guitare, la strat. Donc ces deux guitaristes, c'est vraiment ceux qui m'inspirent le plus, parce qu'ils montrent que c'est pas la technique qui va impressionner le plus ou qui va attirer le plus. Là, c'est vraiment la simplicité d'une mélodie, mais qui va être mémorable. Je pense notamment au solo de Californication.
Oui, c'est très connu.
Ouais, c'est quand même l'une des chansons des Red Hot les plus connues. Et c'est l'un des solos les plus mémorables. Et c'est le premier solo que j'ai appris à la guitare. Donc c'est quand même cool que quand tu joues ton premier solo, ce soit celui des Red Hot. Tu vois, c'est quand même c'est hyper plaisant. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas ouf. Tu vois, il y a un truc, ça montre vraiment la viscéralité de leur jeu, en fait. C'est ça, ils ont un jeu très viscéral, très vivant. Et la guitare, c'est vraiment leur arme pour parler. Donc, ils vont vraiment faire des phrases courtes, mais vraiment bien écrites, en fait. C'est ça. Et puis, c'est quand même, paradoxalement, c'est assez un jeu assez instinctif. Mais ça marche bien, quoi. Ça crée cette énergie qui fédère plein de gens dans les concerts, même ceux qui écoutent à la maison, ce genre de choses. Et toi, Vassili, est-ce que tu peux nous parler un peu des guitaristes qui ont peut-être un autre style de jeu que cette simplicité, comme ça ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de guitaristes qui peuvent s'en éloigner et à la fois reprendre aussi cette idée de note ultime, comme tu as dit. Par exemple, David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, qui à la fois, par exemple, dans ses solos, il va beaucoup chercher quelque chose de beau et parfois simple et parfois moins simple. On sent qu'il y a beaucoup la technique qui est mise en valeur, mais pas que. Et on sent que c'est vraiment la technique mise au service de la musique.
C'est vrai qu'il y a ces solos, je trouve il prend vraiment le temps d'installer une ambiance aussi.
Oui, totalement. Et enfin, il y a des morceaux où on peut l'écouter jouer pendant plus de 5 minutes sans arrêt et sans être ennuyé, parce qu'il a un jeu qui est vraiment, pour moi, à l'égal des paroles de chanson ou d'un couplet. Donc pour moi, ça devient plus un solo de guitare, ça devient vraiment comme un couplet finalement dans une chanson. Je pense par exemple à Shine On You Crazy Diamond, qui est l'introduction de l'album Wish You Were Here. Et il y a vraiment des solos de guitare qui s'enchaînent pendant 5 minutes avant l'arrivée du chant. Et c'est magnifique. Sérieusement, c'est magnifique.
Tu peux nous parler un peu des effets qu'il utilise ? Est-ce que c'est plutôt simple dans le son ou
Oui, c'est plutôt simple, ça reste général. Enfin, il utilise des effets qui vont saturer, ou alors il peut utiliser un jeu très clair. Dans les parties, comme je disais, d'accompagnement, il utilise beaucoup le delay. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un retard en fait, un écho qui va donner au son de la guitare. Et moi c'est un effet que j'adore, cet effet de delay. Et il est beaucoup utilisé dans pas mal de morceaux et d'albums.
Mais il est utilisé, c'est-à-dire tout le temps, enfin je veux dire un délai qui va vraiment être long ou c'est plutôt court
Ça va être court, ouais ça va être court, pour recréer des ambiances suspendues un petit peu.
Ouais, donc c'est un effet qui est un peu transparent dans... C'est un truc qu'il utilise tout le temps
Pas tout le temps, mais ça, c'est une de ses pattes, on va dire, dans certains morceaux. Par exemple, dans l'album The Wall, il utilise beaucoup cet effet.
Et toi, c'est un guitariste qui te touche, du coup?
Ah, mais complètement. Ça m'inspire vraiment, cette façon de jouer, d'amener la guitare à cette échelle. Enfin, comme je vous ai dit, à l'échelle d'un soliste, finalement, mais vraiment d'un soliste et pas au même niveau que le chant, quoi. Pour moi, ça, c'est vraiment une grande inspiration.
Oui, c'est vrai que c'est fort ça d'être dans un groupe de rock comme ça avec donc des paroles aussi et d'avoir un guitariste qui chante mais qui fait de la guitare et qui met vraiment bien en valeur ses solos, etc., qui installe vraiment une ambiance, qui prend le temps de faire bien les choses et de pas bâcler pour mettre plutôt la voix au service de toute la musique.
Oui, totalement. Et d'ailleurs, en parlant de guitariste-chanteur, je pense qu'on peut aussi parler du guitariste de Dire Straits, Mark Knopfler, qui lui aussi est un grand guitariste de rock. Et lui, il utilise une technique particulière, c'est la technique du finger picking, c'est-à-dire qu'il joue avec les doigts à la main droite, donc ce qui pince les cordes, ça va être les doigts, et non pas un médiator comme la plupart des guitaristes, enfin, vous savez, le petit
pic là, le ouais, petit...
En plastique, en triangulaire, qui sert à faire vibrer les cordes, quoi. C'est tiré de la country, ça amène un jeu qui est vraiment hyper différent de ce qu'on peut trouver dans ce genre de jeu.
Les sons aussi, du coup.
Ah oui, les sons, mais totalement. Et il a un jeu vraiment très particulier et qui sonne super bien.
Et c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça où la guitare, c'est vraiment un point central au niveau du groupe, quoi. Et je trouve ça hyper bien que tous les instruments soient mis en valeur, en fait. C'est cool. Mais il y a quand même des guitaristes qui restent, seuls. Enfin, je veux dire, pas dans un groupe de musique avec du chant. C'est vraiment pure guitare. Je pense notamment à Django Reinhardt.
Ah, totalement. Ça peut rejoindre aussi Mark Knopfler, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la technique avec les doigts. C'est un guitariste de jazz.
Jazz manouche.
Ouais, jazz manouche, effectivement. Ouais. Et donc, c'est un peu spécial aussi Django Reinhardt parce que il a perdu ses doigts dans un accident. Enfin, il a perdu deux de ses doigts de la main gauche, cette fois. Donc, les doigts qui sont sur le manche. Donc, c'est-à-dire qu'il jouait avec trois doigts, là où les autres guitaristes jouaient avec cinq. Et pourtant, il a redéveloppé sa technique de jeu avec ça. Il est devenu une star mondiale. Et donc, forcément, ça crée des différences et des aspects différents par rapport aux autres guitaristes.
Et puis en plus, ça va, c'est l'effet inverse de ce que je parlais au début avec M et John. Lui, il joue beaucoup de notes à la seconde, on va dire ça comme ça. Hein. Il joue beaucoup de notes, alors pourtant, il lui manque des doigts quand même. C'est un peu fou. Ça donne ce côté un peu inhumain. Hein. On comprend pas trop comment il peut faire pour jouer aussi vite.
Oui.
Mais ça va pas à l'encontre de la musicalité. Ça reste très musical et ça sert vraiment bien dans ce style de jeu. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ça.
Ah oui, totalement, parce que... Mais je pense que c'est logique que ça serve justement la musicalité, parce que le jazz manouche, c'est une musique très rapide, en fait. Et justement, je pense que le fait de jouer très rapide dans les solos, ça va justement...
Mais ça sert au groove, en fait, à la rythmique de jouer aussi vite. Après, il y a des moments où c'est plus calme. Les guitaristes instaurent vraiment des ambiances au style qu'ils jouent, en fait. Et donc, c'est vrai que dans ce style, ça marche bien, en fait, de jouer.
Ouais, et je pense que l'inverse rapidement. De jouer pas vite, ça desservirait totalement le...
Ouais, ça ralentirait un peu
l'énergie. L'énergie n'y serait pas, je pense, aussi.
On parle de particularités de jeu, au niveau de physique, je parle du corps. Est-ce que tu as un autre exemple d'un guitariste comme ça ?
Totalement, ça rejoint un peu Django Reinhardt, c'est-à-dire que c'est un guitariste, Tony Iommi il s'appelle, et c'est le guitariste de Black Sabbath. Lui aussi, dans un accident à la mine, il a perdu un doigt, un bout de doigt, et ça a été remplacé par un bout de métal. Et donc forcément, ça a changé énormément son jeu. Et c'est ce groupe qu'on dit que c'est les pionniers du heavy metal et du genre metal. Et donc sûrement que la musique n'aurait pas été pareille si jamais il n'y avait pas eu ce guitariste. Et donc forcément, c'est une particularité qui amène beaucoup...
Ouais. Ça crée une sonorité spéciale.
Totalement, totalement spéciale.
Et si on parle de sonorité spéciale, moi je pense à Tom Morello,
oui.
Guitariste de Rage Against the Machine, qui utilise la Wami, qui utilise...
La Wah, et qui parfois aussi, n'utilise même pas sa guitare pour faire des solos, il utilise seulement le
câble jack.
Ouais, le bruit du câble.
Avec le câble jack, il met sa main et en fait ça crée un buzz comme ça. Il utilise la Wah et la Disto et ça crée une mélodie comme ça. Et il utilise vraiment sa guitare d'une façon très singulière. Mm. Donc moi, je vous invite vraiment à aller écouter ce groupe parce qu'on a des sonorités où on ne pense pas directement que c'est une guitare et un humain qui a joué ça, en fait.
Ouais, d'ailleurs, ils ont dû le préciser sur la pochette d'album de leur premier album que tous les effets avaient été faits à l'aide d'une guitare, ce qui, à l'époque, les gens ne comprenaient pas comment c'était possible.
Ouais, c'est fou de devoir préciser justement ça. Et il y a aussi un autre guitariste qui est, on va dire, un peu plus connu, c'est Matthew Bellamy, guitariste de Muse. Guitariste
J'adore
et chanteur. J'adore également. Et lui, il a une guitare qui est assez particulière. C'est qu'il a un pad sur la guitare qui lui permet de créer des sonorités un peu folles comme ça.
Oui, très électronique.
La recherche au niveau des synthés, des sons utilisés au niveau du pedalboard. Il y a vraiment une grosse recherche dans ça. Et lui, donc, il a cette guitare avec un pad. C'est marrant de voir ça aussi en concert.
Ah, totalement.
On a eu la chance de pouvoir voir cet été.
À Marseille, c'était...
C'était vraiment incroyable. Ouais, c'est vraiment un groupe qu'on vous conseille d'aller écouter, parce qu'au niveau des sonorités, c'est assez, assez nouveau. Même dans le dernier album aussi, je trouve que c'est vraiment super les sonorités qui sont utilisées, en fait.
Oui. Et en parlant de guitare spéciale, tu pourrais pas nous dire un mot sur la guitare de Steve Vai, par exemple ?
Ah oui, la guitare de Steve Vai, alors c'était pour son dernier album. Il a sorti une guitare avec 3 manches. Alors, il me semble qu'il y a une guitare électrique normale, donc un manche avec une guitare électrique, un manche avec une guitare acoustique et un autre manche avec une basse avec des frettes et fretless.
Et qu'est-ce que ça apporte finalement?
Ah mais c'est complètement fou, il y a même une harpe sur la guitare, il y a plein d'autres trucs, des boutons, etc. qui font des sonorités complètement folles. Et c'est vraiment incroyable de voir la vidéo où il utilise cette guitare, justement un morceau où il utilise cette guitare, de voir en fait l'audio et le visuel. C'est, en fait, on voit que tous ses gestes sont coordonnés pour créer la musique, il l'a créé seul, mais il y a plein d'instruments en fait. Mais évidemment, il n'y a pas la batterie sur la guitare, bien évidemment. Mais c'est vraiment marrant de voir comment il joue la basse, comment il joue la guitare pour faire le solo, tout ça qui est coordonné. Puis il y a aussi un truc qui rejoint ça, c'est par exemple, il doit parfois jouer des notes avec sa guitare électrique juste en appuyant avec le doigt et pas en grattant les cordes. Pour pouvoir utiliser l'autre main pour jouer quelque chose d'autre. Et il a fait un morceau qui, il me semble, s'appelle Knapsack. C'est quand il avait une tendinite ou des blessures de guitariste qui shred complètement, du coup, ils se font mal. Donc, il avait qu'un seul bras pour jouer. C'est la main gauche, donc celle qui touche les cordes pour...
du manche, sur le manche.
Sur le manche, voilà. Et donc, il jouait comme ça, qu'avec une main. Et c'est complètement fou parce qu'on voit la qualité de son jeu, en fait. Parce que même avec une main, il arrive à faire des trucs de fou.
Oui, mais par contre, son jeu, par rapport à ce dont tu as parlé tout à l'heure de M ou Frusciante, ça s'oppose complètement, quasiment.
Ouais, là, c'est vraiment l'opposé. Et pourtant, moi, c'est un guitariste que j'ai bien aimé écouter quand je l'ai découvert. Même encore aujourd'hui, j'écoute. Et en fait, lui, il joue vraiment beaucoup de notes, mais en fait, ce qui change, c'est vraiment l'ambiance. Et le style musical, c'est vraiment pas du tout pareil. Donc, sur ce style-là, ça marche bien, en fait, de jouer rapide. C'est comme ce qu'on disait avec le jazz manouche. Là, ça marche vraiment bien, ça sert. Et puis même, parfois, le fait de jouer vite, de faire du tapping, par exemple, de jouer comme ça une mélodie... répétitive.
Oui, c'est pas forcément moche, ça sonne.
Et justement, le fait de jouer vite, parfois, ça crée des sonorités. On se demande, qu'est-ce qu'il a joué là ? c'est hyper intéressant. Par exemple, aussi, quand on joue en out. Quand on joue en out, c'est quand on joue des notes qui ne sont pas dans la gamme. Et quand on les joue vite, ça fait vraiment une sensation un peu haul. Et tu vois, ça,
oui,
ça fait
un truc. Vois.
Et ça crée des sonorités comme ça assez spéciales.
Et en parlant de out, ça me fait penser, et aussi en parlant de guitare spéciale, il y a un groupe qui utilise dans un de ses albums de la musique microtonale.
Ah oui, oui.
King Gizzard and the Lizard Wizard.
Super groupe.
Sur l'album Flying Microtonal Banana, t'en penses quoi de ça?
Bah déjà, c'est un groupe australien moi, que j'ai découvert cet été. Samuel Covell qui m'a fait découvrir ce groupe. C'est vraiment intéressant parce qu'au début, je ne savais pas qu'il jouait avec ses guitares, mais je trouvais qu'il y avait des sonorités hyper intéressantes. Et je suis allée voir, et en fait, cette guitare-là, les guitares microtonales, c'est, donc les frettes, elles ne sont pas pareilles que sur une guitare normale dont on a l'habitude de jouer tous les jours. Là, tu peux nous dire un peu comment c'est ?
Bah, c'est-à-dire qu'on ne va pas diviser les notes de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, là, des quarts de ton, là où, par exemple, sur un piano, l'écart entre deux touches, c'est un demi-ton. Donc là, sur cette guitare, il y a des quarts de ton, et donc ça donne des notes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la musique qu'on écoute d'habitude à la radio.
Et surtout la musique occidentale, en fait.
Oui, c'est vrai que ça donne des sonorités très orientales. Alors, c'est écoutable, hein, c'est joli même, mais on n'a pas l'habitude et c'est très surprenant.
Oui, c'est vrai. Ce côté-là, avec les demi-tons, les quarts de ton, ce genre de choses, ça fait vraiment très oriental, mais dans leur style de musique, c'est hyper novateur, je trouve, parce que c'est il y a de la distorsion.
Ouais, c'est un groupe de rock finalement, ouais. Un rock alternatif.
Je sais pas comment on pourrait classer vraiment style de musique.
Il y a peut-être pas besoin de le classer, mais
il y a pas besoin, mais
ça se rapproche beaucoup du rock, c'est vrai.
Ouais, il faut vraiment écouter parce que c'est vraiment des sons puis des rythmiques aussi qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre.
Totalement.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses. Comme vous avez pu le voir, il y a plein de choses dans la guitare dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Donc maintenant, c'est à vous de créer des nouvelles sonorités, des nouvelles guitares.
Oui, merci beaucoup et restez connectés. On revient dans pas longtemps.
c'était donc M avec la chanson Tapis Volant 1, une chanson pas très connue de M, mais très 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 intéressante. Vous êtes toujours sur JMFM pour la deuxième partie de notre émission sur la guitare folle et nous allons faire maintenant un petit débat. J'aimerais en fait vous parler d'un mystère dans l'histoire de cet instrument. Il n'y a pas de femme guitar hero. Alors même qu'il y a des guitaristes femmes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de cet instrument. Je pense par exemple à Wendy, la guitariste géniale du groupe de Prince The Revolution à l'époque de Purple Rain, ou Sister Rosetta Tharpe qui a inspiré Chuck Berry dans les années 40-50. Et pourtant, elle semble oubliée de tous. Pourquoi ? Simone de Beauvoir disait qu'on ne naissait pas femme, mais qu'on le devenait. On peut se demander même donc aujourd'hui si dans l'histoire de la musique, les femmes ne sont pas mises un petit peu de côté, réduites à un rôle qui est simplement le rôle de la groupie ou le rôle de la femme du guitariste. Donc je vais demander à Léa et à Vassili, mais d'abord à Vassili, lui, s'il a déjà été inspiré par des guitaristes femmes.
Bah personnellement, les guitaristes qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de jouer de la guitare parce que bah, j'apprends la guitare, je suis guitariste, c'est quasiment tous des hommes, je pense. Du coup, je me suis pas posé la question de savoir pourquoi ils m'influençaient. Enfin, c'était un modèle, entre guillemets, qui me correspondait parce que moi aussi, je suis un garçon. Et pourtant, on sait très bien qu'être une fille ou un garçon, ça va pas influencer notre jeu. Une fille n'est pas moins bonne à la guitare qu'un garçon. C'est, ce qui dépend, c'est le travail et la persévérance et aussi l'âme artistique. Mais je pense aussi que ça est une question justement de modèle parce que au fur et à mesure du temps, par exemple dans le rock, pour la guitare, parce que la guitare c'est l'instrument phare un peu du rock, et on voit quasiment que des hommes sur scène, que ce soit pour tous les rôles, et finalement je pense que ça laisse pas forcément aux filles un modèle ou...
La place pour s'exprimer.
Oui, de la place pour s'exprimer, c'est ça. Et je pense par exemple... On peut demander à Léa, elle qui elle aussi est guitariste, pourquoi elle fait de la guitare, qu'est-ce qui l'a inspirée, est-ce que c'est des femmes du coup, qu'est-ce qu'elle en pense de ce sujet?
Bah, déjà, quand j'ai commencé la guitare, moi, j'ai commencé avec le groupe Téléphone. À la base, c'était une fille. Et c'est vrai que ça m'a un peu poussée à me dire que je pouvais faire du rock quand même si j'étais une fille. Mais c'était pas vraiment une question que je me posais, mais ça m'a juste dit c'est possible, regarde, ça s'est fait. Mais j'avoue qu'après, tous les guitaristes qui m'ont influencé ou qui m'ont marqué ou que j'ai adoré, ça a toujours été des hommes. Et après, je ne sais pas si puisque je suis une femme, ça doit forcément être des femmes, en fait. Peut-être que j'aurais eu un jeu totalement différent si ça avait été des guitaristes femmes d'autres styles musicaux qui m'auraient influencé. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait changé. Mais c'est vrai que... Ça fait bizarre en y repensant quand on a voulu préparer ce sujet. On a dû beaucoup réfléchir en fait à retrouver des guitaristes femmes qui nous ont marquées ou qui ont été connues, etc. Et je trouve ça fait réfléchir quand même sur ce sujet-là des femmes qui sont moins représentées dans la musique, enfin surtout dans le rock, on va dire, dans ce style-là et tous les sous-genres. Hein,
Ouais, parce que je trouve que c'est plutôt général, qu'il n'y a pas que dans la guitare, il n'y a pas que dans le rock. Il y a beaucoup de... Enfin, les femmes sont sous-représentées dans beaucoup de domaines artistiques et musicaux, je pense.
Ouais, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'il y aurait eu plus de femmes guitaristes s'il y avait eu des icônes modernes aujourd'hui, par exemple? Ça, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'en tout cas, moi, personnellement... ça ne me dérange pas que ce soit des hommes. J'arrive à m'identifier, mais peut-être que... C'est pas jusqu'au bout, tu vois. Peut-être qu'il manque le fait que cette personne, elle soit comme moi, entre guillemets. Il y a peut-être cette barrière-là que j'ai pas encore pu découvrir, tu vois, ce qui se passe après, quand c'est vraiment une femme et que je peux m'identifier complètement. Je sais pas si ça change quelque chose, mais je trouve que ça donne quand même un message d'espoir de se dire, les filles, allez-y, lancez-vous et devenez cette icône. Et vous allez inspirer plein de gens. Plein de femmes, plein de jeunes, de garçons, etc.
Oui, absolument. Et je pense qu'on peut aussi demander à Monsieur Gallic, qui aussi est guitariste, mais d'une autre génération, son avis sur le sujet.
Ouais, une autre génération, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt de la génération du groupe Téléphone et de Prince, les années 80. Et c'est vrai que Corinne, la bassiste du groupe Téléphone, a toujours joué un peu le mauvais rôle. Et elle a toujours été mise au second plan. Et d'ailleurs, quand ils se sont reformés, bizarrement, la seule personne avec laquelle ils n'ont pas su véritablement rejouer, c'est elle. On peut se poser des questions, et je trouve que Vassili, tu as raison, sur la société en général, qui est toujours un petit peu machiste, qui est toujours un peu misogyne et qui met toujours les femmes au second plan. Donc, moi, je prendrais les choses à l'envers. Quand on reprend le groupe The Revolution de Prince, avec le fameux album Purple Rain en 1984, lui, il ne voulait rien revendiquer sur le plan politique. Ce qui fait qu'il avait un groupe où il y avait des noirs, des blancs, des hétérosexuels, des homosexuels, des femmes, des hommes, et il mettait tous les musiciens sur le même plan. Et donc, sa guitariste, Wendy, avait 19 ans quand même à l'époque. Prince va chez un ami, il l'entend jouer dans une chambre à coucher. Il trouve qu'elle joue très très bien, il l'accepte sur scène. Et elle fait des accords totalement improbables. Elle épate beaucoup de guitaristes. Elle joue devant 20, 30, 40, 50 000 personnes jusqu'en 1986-87. Et puis après, elle quitte le groupe. Et à partir de ce moment-là, on n'en entend plus parler. Comme si, au final, il fallait que ce soit un homme qui soit le leader et que la femme soit là simplement pour l'aider. Donc, je renverse un peu la question. Et je reviens à Simone de Beauvoir, est-ce qu'une femme a la possibilité de devenir une icône ou est-ce qu'elle est empêchée par une société d'hommes qui veut absolument imposer leur pouvoir? Puisque c'est aussi une question de pouvoir, y compris sur scène. Il y a des égos dans les groupes de rock, mais aussi partout dans la société. Voilà ce que j'en pense.
Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution quand même par rapport à quand vous avez commencé la guitare à maintenant, aujourd'hui
Bah, pas trop, non. Pas trop, je dirais même, parfois il y a des régressions. Alors là, on ne parlera pas vraiment du rock, mais dans le domaine du rap, je ne suis pas sûr que ce soit un genre très très féministe. Il n'y a pas beaucoup de rappeuses aussi qui ont réussi à percer. Et non, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme de chape de plomb et de régression. Et la fille, par exemple, si elle veut être mise en avant sur scène, eh bien, il faut aussi qu'elle soit habillée de manière à attirer les regards, etc., etc. Alors, ce qu'on ne demande pas forcément à un homme. Un homme peut être pas très beau et il peut avoir le droit à la lumière et pas souvent pour les femmes. Donc non, je ne trouve pas qu'il y ait d'évolution, en tout cas d'évolution positive. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais bon.
Non, mais ce n'est pas forcément faux. Et, on a demandé à notre professeur de guitare, Franck, son avis sur le sujet. Et lui, il pense... que les filles, elles sont aussi dégourdies que, largement aussi dégourdies que les gars. Enfin, il n'y a pas de différence physiquement de possibilité. Et même, il insiste sur le fait que, par exemple, Léa joue beaucoup mieux que vraiment tous les garçons. Bon, à part un, je pense que vous savez qui c'est.
Vassili.
Mais après, il insiste aussi sur le fait que c'est que des cas particuliers, que lui, il voit comme les élèves, mais qu'il voit beaucoup aussi le fait qu'il y ait des stéréotypes. Par exemple, que le rock soit pour les gars... Pour les garçons, il dit qu'il y a beaucoup de filles dans le classique. Et c'est vrai que dans le classique, on voit beaucoup plus de femmes, de filles.
Par exemple, dans notre groupe, Fantine qui est à la basse, à la base, c'est une guitariste de classique.
Oui, grosse dédicace à Fantine. Après, c'est vrai qu'il insiste sur le fait qu'il y a des stéréotypes qui influencent sûrement le fait vers quelle musique vont s'orienter les jeunes qui veulent commencer à pratiquer la musique.
Merci à votre prof de guitare. Comment s'appelle-t-il déjà ?
Franck Lopez.
Franck Lopez, on remercie Franck.
On le remercie.
Et merci de former tous ces jeunes musiciens. Donc, il est professeur de musique à Pézenas ?
Oui, c'est le directeur de l'école de musique de Pézenas.
N'hésitez pas.
Oui, un enseignement de qualité.
Si vous voulez, même les filles, justement, si ça vous donne de la motivation, tout ce qu'on vient de dire, à commencer la guitare et à du coup casser toutes ces normes, allez-y, foncez à l'école de musique et apprenez la musique. Vous verrez, c'est hyper passionnant et puis ça permet de s'exprimer sur des choses où parfois les mots ne marchent pas.
Oui, et d'ailleurs, dans le thème, la deuxième professeure de l'école de musique, c'est une femme, elle s'appelle Emeline et... aussi de très bons élèves, de très bons résultats dans le... Voilà.
Grosse dédicace.
Super. This is love. This is love. Bah, merci beaucoup, hein, Léa et Vassili. Vous êtes toujours sur GMFM, la web radio musicale du lycée Jean Moulin en partenariat avec RPH et Samuel à la technique. Pour la troisième partie de cette émission, on va laisser la parole à Théo et Quentin qui vont nous parler donc de quelque chose d'un peu plus spécifique, hein, la guitare comme jeu vidéo. Et là, je crois que je vais apprendre beaucoup de choses.
Hola, je m'appelle Quentin. Merci beaucoup Léa et Vassili de nous avoir parlé de la place des femmes dans la guitare. Aujourd'hui avec Théo, on va parler d'un jeu vidéo qui imite la guitare. Il s'appelle Guitar Hero et créé sur une console. Il se joue avec une manette en forme de guitare. Théo, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce jeu, nous le présenter un petit peu ?
Oh oui, le jeu Guitar Hero, il est assez connu, je pense. C'est un jeu qui est connu mondialement, faut le dire. Il est sorti sur beaucoup de consoles, sur plusieurs générations d'ailleurs de consoles. Par exemple, la PS2 à la PS5. On peut le voir sur beaucoup de bornes d'arcade de Guitar Hero. La manette, oui, la manette, elle est iconique par rapport au jeu. Sans la manette, on peut malheureusement pas y jouer. Sachant que la manette coûte le prix du jeu, ça fait quand même un tout petit peu mal.
Quel est le prix environ ?
Pour le premier opus, on est dans les alentours de 10€.
Ça va.
C'est pas cher pour le premier opus, mais la manette est dans les alentours de 30€. Mais la manette est compatible avec la première et la dernière version. Pour les toutes dernières versions du jeu, on peut avoir du 35€, voire 40€. Donc pour les tout derniers, par exemple, Guitar Hero Live, qu'on a sur les toutes dernières consoles.
Avec la manette comprise ?
La manette, malheureusement pas comprise.
D'accord.
Mais on peut acheter des box à 100€ avec la guitare, manette, le jeu, et même une nouvelle manette qui sont sorties il y a pas longtemps. C'est une manette en forme de batterie qui, justement, nous permet de devenir un batteur. Comme avec la guitare, c'est exactement le même système pour jouer. On utilise les touches en même temps que sur l'écran.
Qu'est-ce qui vous intéresse, premièrement, dans ce jeu ?
C'est qu'il s'agit d'un jeu de rythme qui est pour tout le monde, donc c'est tout public. Il est sorti sur console et aussi sur mobile pour certaines versions, et sur arcade, et encore plus, même sur un PC et Mac. Le jeu est sur le thème du rock, donc c'est pour ça que nous parlons ici, car nous sommes un guitariste dans un groupe de rock. Ah, et ce jeu a révolutionné les jeux de rythme, car grâce à Guitar Hero, on a eu le jeu de rythme où on avait les touches qui descendaient du haut en bas, ce qui nous a réussi à créer de nouveaux jeux qui sont devenus célèbres aujourd'hui. Le jeu est basé sur la musique, ce qui était assez rare à cette époque. Le jeu comporte énormément de musiques qui ont rendu célèbres certains groupes qui étaient à ce jour inconnus. Les graphismes du jeu sont pas ceux des AAA de nos jours, mais par rapport à l'époque où les jeux étaient sortis, franchement, ils étaient très beaux, je trouve. Et le jeu, voilà, c'était du jamais vu de jouer un membre d'un groupe de rock avec une manette spécifique de la forme justement de l'instrument.
Le jeu a permis la célébrité de groupes de rock ou de musique, de morceaux qui existaient déjà avant le jeu et qui ont été utilisés pour ce jeu. Ou est-ce que des morceaux qui ont été créés pour ce jeu sont devenus célèbres après ?
Bah, les morceaux qui ont été créés pour ce jeu, ils n'étaient pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns et ils ont été assez célèbres à ce jeu. Ils sont célèbres parmi la communauté des joueurs. Et aussi un petit peu par les personnes à l'extérieur, parce que ben, du coup, on avait les vidéos qui tournaient sur Internet et les musiques après, elles étaient reprises. Ben, ça faisait le tour. Mais il y avait un petit paquet de musiques et de groupes qui ont réussi à se rendre un peu plus célèbres grâce au jeu. Parce que souvent, la communauté des joueurs s'intéresse souvent qu'au jeu et pas au groupe de musique. Et grâce à Guitar Hero, moi-même, j'ai découvert des groupes. Par exemple, j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Booston, justement avec la musique Morse Dana Feeling sur Guitar Hero 1, le tout premier, que j'ai bien aimé, franchement. C'est quand j'ai écouté la musique pour la première fois, je me suis dit, j'ai envie de la rejouer. Je me suis intéressé à la musique.
En quelle année as-tu créé les jeux de Guitar Hero ?
Le premier jeu, donc le 1, est sorti le 8 novembre 2005 en Amérique, mais en Europe, il est sorti le 7 avril 2006, donc avec l'exportation, le temps et les traductions. Après, il y a eu quand même un bon paquet de jeux qui sont sortis bien après. La série de jeux s'est arrêtée il y a vraiment pas si longtemps que ça, 2015, où ils ont sorti leur dernier opus qui était Guitar Hero Live, qui est sorti sur plusieurs consoles, la PS3, la PS4, la Wii U, l'Xbox 1, l'Xbox 360. Franchement, il y a les jeux qui sont sortis il y a longtemps, mais franchement, en même pas 10 ans, il y a eu 21 jeux, ce qui est quand même pas mal.
Prévoit-il de sortir de nouveaux opus ?
Malheureusement non, parce que le tout dernier opus qui était Guitar Hero Live n'était pas prévu, et justement c'était une surprise pour la communauté de savoir qu'il allait avoir un dernier opus en 2015. Pour le moment, ils n'ont pas prévenu qu'ils feraient de nouveaux jeux. Donc nous croisons les doigts pour avoir une petite fuite dans leur bureau qui nous prévient qu'on aura un nouveau opus.
Qui sont les créateurs ?
Les créateurs sont Harmonix Music System, qui appartiennent à Activision Blizzard depuis 2008. Ils ont développé Guitar Hero de A à Z. Au départ, c'était eux les développeurs, mais après, ils se sont fait racheter par Activision parce qu'ils ont vu que la série avait un grand succès et qu'il y avait un petit profit à faire.
Est-ce que d'autres jeux vidéo se sont inspirés de Guitar Hero ?
Oui, il y a eu beaucoup de jeux. Par exemple, il y a des jeux qui sont sortis sur les consoles. Je pense par exemple à des jeux Lapin Crétin contre Eman et dans la série, qui justement ont des mini-jeux justement qui reprennent Guitar Hero, où on peut choisir un membre d'un groupe, où on refait des musiques à la sauce Lapin Crétin, bien évidemment. C'est comme Guitar Hero, avec les manettes de Wii normal. On doit faire les bons mouvements au bon moment, en touchant les bonnes touches, pour avoir des points, etc. Mais on a des jeux récents, par exemple, je pense à Osumania, qui est un jeu dans le style de Guitar Hero, sauf qu'on est sur PC avec un clavier. Et il y a eu un jeu qui avait fait un succès pendant un petit bout de temps, c'était Friday Night Funkin', qui était sorti sur PC et mobile. C'était un jeu flash indépendant qui a franchement un petit peu cartonné, je trouve. Mais tout ça, c'est grâce à Guitar Hero qui a inventé le système des touches qui descendaient du haut vers le bas.
Est-ce que vous diriez que le jeu Guitar Hero est un moment important dans l'histoire du jeu vidéo?
Oui, je peux très clairement dire que Guitar Hero a révolutionné le jeu. Il y a vraiment sa place dans le couloir des jeux célèbres et connus. C'est grâce à eux qu'on a beaucoup de jeux de rythme, c'est grâce à eux qu'on a beaucoup de musique dans les jeux vidéo, parce qu'avant, les musiques, c'était les développeurs qui le faisaient, ça prenait du temps. Maintenant, on a les musiques connues qui sont reprises dans les jeux. C'est partiellement grâce à Guitar Hero, justement. C'est l'un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers à avoir inventé le système de créer une manette que pour le jeu, car la manette Guitar Hero ne peut être utilisée nulle part autre. On peut malheureusement pas jouer à Mario avec une guitare en forme de manette.
La guitare de ce jeu est-elle réaliste par rapport à une guitare normale ?
Pour l'esthétique de la guitare, franchement, elle est très réaliste même, car nous avons une guitare électrique qui est assez reconnaissable. On a un vibrato qui est fonctionnel sur certains opus. On a une barre de frappe au milieu qui sert justement de corde. Et des notes en haut qui nous serviraient justement à faire les accords. Mais par rapport à la technique, malheureusement, ça y ressemble vraiment pas, étant donné que sur une vraie guitare, on a une infinité d'accords possibles. Et on a 6 cordes, alors que sur la guitare de Guitar Hero, on n'a qu'une seule corde qui est schématisée par la barre de frappe. Les gens, ils verront que le Guitar Hero, ça peut être un jeu qui pourrait permettre d'apprendre.
Vous dites que la guitare du Guitar Hero peut permettre d'apprendre à faire de la vraie guitare ?
C'est la guitare qui est utilisée dans la Guitar Hero. Bah, en fait, elle est plus là pour le réalisme dans le jeu. Le fait que ce soit plus fun et divertissant que pour aider à apprendre. Parce que malheureusement, on n'est pas sur un jeu éducatif, mais plus sur un jeu dans le but de faire du score, de gagner, d'être dans le rythme et se divertir. Donc je dirais pas que Guitar Hero permettrait d'apprendre à faire la guitare.
Combien de temps on met en moyenne pour apprendre à jouer de la guitare sur Guitar Hero ?
Bah, ça dépend vraiment des personnes, parce que pour une personne que ça va faire longtemps qu'il joue à les jeux de rythme comme moi, franchement, ce week-end, j'ai rebranché ma Wii, je me suis remis à jouer. En même pas une ou deux heures, j'ai déjà pris mon pied. Alors que y en a, ils n'ont jamais touché un jeu de rythme de leur vie, ils risquent de prendre des jours pour commencer à faire des musiques sans faire de fautes. Ça dépend vraiment de l'expérience dans les jeux vidéo et surtout de la connaissance de la manette. Parce que le jeu, c'est assez compliqué dû au fait qu'on a plusieurs touches à toucher au bon moment. Sinon, on fait une fausse note. Et le but, c'est de faire le moins de fausses notes.
À quelle ampleur fut le succès de ce jeu ?
Le succès de ce jeu est vraiment, je peux le dire sans crainte, il a eu une ampleur mondiale, car il touche tous les continents. En Europe, on a eu un jeu qui a été un très grand succès, surtout en Allemagne et en France. On peut en trouver en Asie, par exemple en Japon, on a des bornes d'arcade, on peut trouver des bornes Guitar Hero avec les manettes. En Amérique, c'est là-bas où réside le meilleur joueur mondial actuel, Carnie Jared. On peut en trouver en Afrique, en Algérie ou au Niger. Je peux dire que franchement, ça a eu une ampleur intercontinentale.
Merci beaucoup Théo de nous avoir fait apprendre beaucoup de choses sur ce jeu vidéo que je ne connaissais guère.
Ah bah de rien.
Bon bah la prochaine fois on apprendra d'autres choses. Hein. Hasta luego, hein, au revoir.
Et ciao.
Merci beaucoup Théo et Quentin pour toutes ces explications. Là vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Donc pour conclure cette émission spéciale guitare, la guitare folle, vous êtes toujours sur JMFM, la web radio musicale du lycée Jean Moulin de Pézenas en partenariat avec RPH. Et on va demander à Vassili s'il n'aurait pas un petit disque à nous proposer, une petite sortie qui intéresserait tous les amateurs de guitare.
Et oui, je vais vous parler du nouvel album de The Smile qui sort le 24 janvier 2024. Alors The Smile, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un groupe qui, je pense, parle un peu à tout le monde, parce qu'il y a deux membres de Radiohead à l'intérieur, donc Johnny Greenwood à la basse, à la guitare et au clavier, et Tom York à la basse et aussi à la guitare et au clavier, et en plus de ça, qui chante. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Radiohead, c'est vraiment un groupe très très connu des années 90-2000, de rock alternatif, et avec des grands tubes comme Creep, No Surprises ou Karma Police. Donc franchement, allez écouter, que vous connaissiez ou pas, ça fait toujours du bien d'écouter Radiohead. Et donc à ces deux musiciens s'ajoute un batteur de jazz, Tom Skinner, et avec le manager de longue date de Radiohead, ça donne vraiment un groupe de folie qui s'est créé pendant le Covid-19, donc c'est plutôt récent, et ils ont sorti leur premier album, A Light for Attracting Attention, en 2022, le 13 mai 2022. Avec une essence pop-rock alternative, et on sent la patte de Radiohead dans les expérimentations musicales qu'ils font dans cet album. Il y a par exemple, on trouve des mesures à 7 temps, des mesures à 11 demi-temps, là où la plupart du temps, dans les morceaux qu'on écoute d'habitude, c'est à 4 temps. On peut faire des parallèles avec des groupes, donc il y a King Gizzard and the Lizard Wizard, dont on a parlé tout à l'heure, ou le groupe Tool, qui utilisent aussi ce côté très érudit de la musique sans pour autant que ça gâche le côté artistique et musical. Donc dans ce premier album, on peut retrouver des titres comme Panavision, Speech Bubbles, c'est mon préféré, ou Scorching on the Surface. Et donc c'est pas que expérimental, hein, y a beaucoup de douceur et c'est très onirique. Moi j'ai vraiment l'impression de rentrer dans les méandres de l'esprit de quelqu'un quand j'écoute cet album. Et donc maintenant on va parler de ce qui nous intéresse, donc leur deuxième album qui s'appelle Wall of Eyes et qui sortira le mois prochain, le 24 janvier 2024. Il y a deux extraits qui sont sortis pour l'instant, donc deux titres, Wall of Eyes et Bending Hectic. C'est dans la lignée pour moi du deuxième album, même si on sent des différences dans le son des instruments et dans la production. On le retrouve moins le côté mathématique qu'au premier album, et ça reste encore une fois très doux et spirituel, spiralaire. Et donc je pense qu'on peut se quitter avec un morceau, voici The Smile, Bending Hectic. To a bend now.
skidding round the hairpin. The sheer drop down the Italian mountainside. When time is kind of frozen, gazing at the view, and I swear I'm seeing double. No one's gonna bring me down.
Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale guitare, la guitare folle avec JMFM, la web radio musicale, avec Quentin, avec Théo, avec Vassili, avec Léa et Samuel à la technique que nous remercions.
Et Monsieur Gallic aussi, il ne faut pas l'oublier.
J'espère bien. Et donc on vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle émission enregistrée dans les locaux du lycée Jean Moulin. Donc nous remercions toute l'administration qui nous a aidés à construire ce projet, notamment M. Hardy, le proviseur, et aussi la radio RPH qui est un partenaire de choix et de qualité. Et puis aussi tous les élèves qui veulent venir nous rejoindre les mercredis de 13h à 14h pour enregistrer des émissions, pour s'intéresser à la technique, pour s'intéresser à ce que peut être une web radio, vous êtes tous les bienvenus et on vous dit à très bientôt.
JMFM.
JMFM, voyage des lycéens vers de nouvelles vibrations musicales.
JMFM.
Pour découvrir et redécouvrir des musiques multigénérationnelles.
JMFM.
On vous embarque pour léviter sur nos ondes locales.
Retrouvez-nous
mercredi
de 12h30 jusqu'à 14h au CDI.
JMFM.
Rejoignez-nous.